Bonjour à toutes et à tous. Chacun sait que chaque personne, il a plusieurs aspects en lui-même. Il y a l'aspect visible, révélé, ce qu'il fait, ce qu'il sait, ce qu'il aime. Il y a un autre aspect plus profond, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il sait qu'il est capable de faire. Ce qu'il est capable de savoir, ce qu'il est capable d'aimer. Mais ça, pour ça, il faut travailler pour révéler cette idée. Mais c'est une capacité proche. Ça veut dire qu'on voit bien que s'il va travailler sur tel et tel domaine, il va finalement arriver à cette chose. Et là, il y a une différence entre l'un et l'autre. Il y a certaines personnes qui sont plutôt capables. Ils ont cette capacité, les autres ils ont d'autres capacités. Mais il s'agit d'une capacité plus proche. Ensuite, il y a un aspect encore plus profond, que même la personne lui-même, il n'est pas capable, il sait pas qu'il a ces capacités. Il a une capacité très profonde, mais il n'est même pas au courant. Il ne sait pas à ce qu'il est capable. Et donc, alors, on est là pour travailler. Pour travailler sur l'aspect révélé, le diriger vers quelque chose de possible, de positif. Travailler sur cet aspect qui n'est pas révélé. Donc, développer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'aimer. Ça veut dire l'amour plutôt propre. Positive, ce qu'on est capable de savoir. Et il y a aussi des aspects très profonds que l'homme, il n'est même pas au courant qu'il a, et pourtant il a ses capacités. Ses capacités, elles se trouvent dans une profondeur, une grande profondeur, parfois il faut travailler très dur pour trouver. Et pourtant il a ses capacités. Je connais une personne qui n'avait pas beaucoup de capacités au niveau intellectuel. Et tous ses camarades, ils ont compris ce qu'ils ont étudié. Et lui, il était un peu. Il avait du mal. Mais il a tellement travaillé dur pour rattraper ses amis, que finalement, il les a dépassés. Et il est devenu un homme jusqu'à aujourd'hui. Il est assez âgé. Mais il a révélé des capacités énormes. Donc il est devenu un homme très érudit, très profond. Et il écrit beaucoup. En même temps, c'est un homme d'affaires qui a beaucoup de réussite. À côté de ses études, il fait des affaires qui marchent très très bien jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, il donne beaucoup de charité. Et il a beaucoup de capacités, mais ce n'était pas des capacités visible, c'était des capacités cachées. Nous sommes à ce moment après la période des Nephaves. La semaine dernière, on a parlé des Nephaves, les jours de la destruction des temples, en même temps la destruction de tout un système, la destruction de l'espoir. En fait, pas vraiment l'espoir, mais c'est une destruction d'un peuple, une destruction d'un pays, une destruction des temples qui représente l'âme d'un peuple, qui représente l'âme d'un pays. Donc c'est un jour qui représente jusqu'à aujourd'hui la catastrophe, les catastrophes qu'il y a avec nous en tant que peuple juif. Mais on passe quelques jours après, c'était le jour d'hier, le 15 Av, que c'est un jour de joie. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chance parce que les gens ils sont en vacances, donc en vacances on se comporte autrement. Ça veut dire que les gens sont occupés à faire des choses, de se promener, donc on ne donne pas une importance à cette date. Mais on n'a pas trouvé dans la coutume juive une habitude récemment de fêter cette fête. Et la seule chose, c'est que dans la prière, on change quelque chose, on ne fait pas ce que s'appelle Tchanounim, cette période, mais visiblement, il n'y a pas quelque chose de très très fort. Mais dans la période ancienne, on trouve que c'était une fête très très grande, de tel point que le Talmud nous raconte, le Talmud à la fin de le traité Tanit, nous dit comme ça, qu'il n'y avait pas une fête aussi importante dans la communauté juive, comme celle de Kanzav, donc la date qui correspond à la date d'hier, et le jour de Kippour. Donc déjà, on compare un jour au jour de Kippour, donc c'est quelque chose de grandiose, parce que tout le monde sait que Kippour, c'est le jour de l'année, c'est vrai pour la sainteté, c'est vrai pour le pardon, mais quand même, le jour de Kippour, on n'a pas quelque chose qui se compare au jour de Kippour. Si on compare le 15 av au jour de Kippour, donc on voit déjà qu'il s'agit d'un jour très spécial. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le Talmud nous raconte comment on a fêté cette fête, ces deux fêtes. Et c'est très étrange. Le Talmud continue et il dit comme ça, qu'il n'y avait pas une fête aussi grande dans la communauté d'Israël comme celle de 15 av et le jour de Kippour, qu'à ce moment, les filles de Jérusalem, ou les filles d'Israël, sortaient dans les vignes, et il y avait quelque part appel au mariage. Chacune se présentait avec sa qualité. Elle a dit aux hommes, aux jeunes hommes, regardez ce que vous choisissez, ce que vous cherchez dans le mariage. Est-ce que vous cherchez la famille? Est-ce que vous cherchez la beauté? Est-ce que vous cherchez la sincérité, la crainte de Dieu, etc.? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais on ne rentre pas maintenant dans le sujet de ce qu'on cherche dans le mariage, mais en tout cas, ce qui nous intéresse par rapport à ce que je suis en train de développer là, c'est la notion de jour de mariage, qu'on sait très bien que le jour de mariage, c'est un jour grandiose, un jour de joie qui dépasse tous les autres joies. Il faut voir les rapports. Pourquoi cette date? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette date? Et surtout sur le jour de Kippour, que c'est un jour très très sérieux, c'est un jour très... c'est pas vraiment le moment que les jeunes filles se présentent comme ça. Il y a d'autres jours pour ça. Et pourquoi le jour de Kippour? Alors peut-être pour le Kippour, on ne va pas parler aujourd'hui, on va parler surtout le 15 av, ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est cette idée? On a beaucoup de problèmes avec cette Talmud. Il y a beaucoup d'explications. Le rabbi de Lubavitch a commenté cette partie de Talmud plusieurs fois. Et chaque fois, il a expliqué d'autres choses très intéressantes. Et ça nous donne une idée sur la vie, ça nous donne une idée sur la sainteté, ça nous donne une idée sur le mariage, sur l'amour, sur beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, on va essayer plutôt de se baser sur une idée. Donc alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quelques jours, c'était la date de Nefav, le jour de la destruction. La destruction des temples qui finalement menait la destruction de Jérusalem, qui menait la destruction d'Israël, d'un peuple, pas vraiment la destruction des peuples, parce que le peuple d'Israël, il est indestructible, c'est pas possible, mais c'était relativement le fait qu'ils ont été exilés, le fait qu'ils ont été massacrés, le fait qu'ils ont été touchés d'une façon terrible. Alors ça, oui. Donc, alors, le 9 av représente quelque chose de très négatif. Et ensuite, quelques jours après, donc 6 jours après, ça représente un jour de très positif. Jusqu'à la notion de mariage. Le mariage, c'est un jour de construction. Dans l'esprit de mariage vu par la Torah, c'est une construction éternelle. Ça veut dire que dans le système normal, on se marie pas pour se divorcer après, ça arrive malheureusement, mais ça c'est pas la vision. Quand on construit quelque chose de solide qui va, on espère, qui va jamais être détruit, qui va être que le sentiment, que l'amour, que le respect, que la construction va être éternelle, Donc, un petit peu contrairement à ce que s'est passé le Nefav, qu'il y avait une destruction de quelque chose. Et là, par contre, la construction de Kanzav, qui à peu près finalement c'est la même chose, les temples et la vie humaine, c'est la même idée, parce que finalement la vie humaine, et si on vit comme il faut, c'est une sorte de temple. Et si on n'a pas le temple, alors la vie humaine aussi, elle n'a pas de valeur. Donc à ce moment-là, ça risque de ne pas durer. Alors on voit déjà le rapport entre les deux choses, mais c'est intéressant que quelques jours après, on passe d'une destruction vers quelque chose d'une construction, et d'une construction solide, et d'une construction, bien sûr, qui crée la joie, à tel point qu'on dit qu'il n'y avait pas de grande joie comme celle date, cette de date, et ce qui nous intéresse, c'est le Kanzav. Et le Talmud nous dit pourquoi. Là, on a dit comment ils ont fêté. Mais pourquoi ils ont fêté cette date? Alors, il y a toute une liste de choses de ce qui s'est passé dans les dates de Kanzav. Parmi les explications, c'est qu'on sait que on est. Donc, le Kanzav, c'est la suite de Nefav, et qu'en vérité, c'est la suite de 17 Tammuz. C'est toute une série de choses qui se passent l'un après l'autre. Le Nefav, c'est comme on a dit que c'était le jour de la destruction des temples deux fois. Le premier temple et le deuxième temple. Mais bien avant, il y avait quelque chose qui, quelque part, causait cette chose. C'était à l'époque, après la sortie de l'Égypte, c'était moins qu'un an et demi après la sortie de l'Égypte, le peuple juif, deux ans et demi après la sortie de l'Égypte, et le peuple juif, ils avançaient, s'il faut voir comme ça. Ils ont sorti de l'Égypte quelques mois après il y avait le don de la Torah, ensuite il y avait la faute de Vaudor, et finalement Dieu il a pardonné les jours de Kippour de l'année d'après, et il a donné l'ordre de construire le temple. Le temple a été construit finalement le mois de Nissan. Ils ont resté là-bas, donc vers le mont des temples, avec vers le mont de Sinaï, avec le temple, ils ont resté presque un an. Donc on est quand même plus que deux ans et quelques mois après la sortie de l'Égypte. Et il y avait, ensuite, ils ont été prêts pour entrer en Israël. Ils ont envoyé des explorateurs pour explorer la terre d'Israël, rentrer et savoir des choses concrètes sur la terre d'Israël pour pouvoir entrer. Et ensuite, une catastrophe, les explorateurs, ils reviennent avec des mauvaises nouvelles. En vérité, on essaie de comprendre où sont les mauvaises nouvelles, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que les peuples juifs, ils ont pleuré toute la nuit et ils ont refusé de rentrer en Israël. Et à ce moment-là, Dieu il a décidé de leur laisser comme ils veulent dans le désert 40 années, donc 40 mois à 2 ans et demi qui restaient. Donc, mais ils ont resté finalement 40 années dans le désert puisqu'ils n'ont pas voulu. Mais quand même, cette nuit où ils ont pleuré, alors Dieu il a annoncé que puisque vous avez pleuré pour rien, ça va être un jour de pleurs. Effectivement, le jour de Nevav devient un jour de pleurs. Et à partir de là, donc il y avait le décret que toute cette génération, comme ils voulaient, ils vont rester dans le désert à l'âge de 60 ans. Ils sont morts une année après l'autre. Et donc chaque année, l'année de Nevav, les gens qui devraient mourir cette année, ils sont morts. Ils ont été prêts pour ça. Ils savaient quand est-ce que ça va être le Nefav. Ils ont été prêts, comme ça nous raconte le Talmud. Et la dernière année, c'était déjà une habitude. Les gens, à l'âge de 60 ans, ils meurent. D'ailleurs, dans l'esprit général, l'espérance de vie est beaucoup moins que ça. Dans l'esprit juif, c'est le contraire, mais c'est pas aujourd'hui. On a des preuves, mais c'est pas aujourd'hui le sujet. Donc, les jours de 60 ans, l'année, donc les 9 ans de leurs 60 ans, ils sont morts. Et la dernière année, avant l'entrée en Israël, personne n'est mort le jour des 9 Av. Donc c'était très étonnant. Ils ont attendu quand même un jour après un autre jour, jusqu'au moment où c'est arrivé la pleine lune, parce que les 9 Av, ça correspond au 9e jour après la nouvelle lune. Donc le 15 Av, c'est 15 jours après la nouvelle lune, où la lune elle est complète. Et puisqu'ils ont vu la lune complète, donc ils ont compris que c'était pas une erreur de date. Ça veut dire que c'est terminé. Alors à partir de là, c'est devenu un jour de fête. C'est que le décès des gens, une année après l'autre, à l'âge de 60 ans, est arrêté. Et le décret que les gens de la génération d'avant, ils vont mourir dans le désert, est terminé. Donc c'est pour ça que c'était un jour de fête. Mais la chassidoute explique qu'en vérité, c'est arrêté les 9 Av. Seulement que les 15 Av, ils ont remarqué, ils ont été sûrs qu'effectivement, ce n'est pas la date, ce n'est pas une tromperie de date, mais c'est vraiment le jour où, c'est vraiment le moment où c'est arrêté. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont arrivées, peut-être on ne va pas pouvoir détailler tout. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre un petit peu que dans les différentes raisons de ce qui s'est passé les 9 Av et ensuite les 15 Av, on voit que les problèmes des 9 Av étaient résolus quelque part le jour des 15 Av. Alors, dans le Chassidut, on explique c'est que les 15 Av, on sait que dans la communauté juive, on compte les mois. Donc, ce n'est pas comme le compte général qu'on compte l'année. Donc, il y a 365 quarts de jour. Et on le divise plutôt en 12 mois. Donc, les mois, ils ne sont pas vraiment liés avec quelque chose de naturel. Quoique, mais pas vraiment. Mais, par contre, le système juif, c'est qu'on se base sur les mois. Ça veut dire que le premier jour du mois, c'est le jour où, normalement, il y a la nouvelle lune, et quelques heures après qu'on puisse voir la première lune, la nouvelle lune, ça c'est le jour du mois. Et ensuite, on compte jour après jour, jusqu'à le 15 du mois, où la lune, normalement, elle est pleine. Et à partir de là, elle commence à diminuer à nos yeux, jusqu'à le moment où elle disparaît, ça c'est la fin du mois. Et comme ça, mois après mois, la nouvelle lune, quelques heures après, parce que la nouvelle lune, on ne voit pas encore la lune, mais quelques heures après, on voit la lune, donc c'est le début du mois. Le 15 du mois, c'est la pleine lune, et la fin du mois, c'est là où on ne peut voir plus la lune, et lorsqu'on commence à la voir, c'est la nouvelle lune. Donc ça, c'est le système juif. Alors, ce qui est intéressant, donc, comme c'est expliqué dans la Chassidut, c'est que les fêtes sont liées avec les 15. Quelque part, ce n'est pas par hasard que la lune, c'est un horloge pour nous. C'est un horloge pour connaître la date. Mais en même temps, c'est un horloge pour comprendre la vie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et dans le système aussi des fêtes juives, alors les fêtes sont liées avec les 15 du mois. Les 15 du mois, c'est le moment où la lune est pleine et notre vie aussi elle est pleine. Et quand la vie est pleine, c'est le moment de joie. C'est pour ça que les grandes fêtes sont liées avec les 15 du mois. Les 15 du mois de Nissan et les 15 du mois de Sukkot. Les autres, la fête de Shavuot, c'est carrément différent, c'est un autre système, c'est pas lié avec les jours du mois. C'est un sujet qu'on parle de temps en temps, les grandes fêtes sont liées avec les 15 du mois. Pourquoi? Parce que le 15 du mois, c'est le jour de plénitude. Et la fête est liée avec la notion de plénitude. On arrive au summum de ce qu'on espère d'arriver, c'est ça la fête. Et c'est lié avec l'idée de la fête, que c'est la fête, c'est la joie, c'est la plénitude. Maintenant, c'est vrai surtout pour le fait de Nissan et les fêtes de Tishri. Mais c'est vrai aussi pour les autres fêtes et encore plus pour le mois d'Av. Alors, lorsqu'on dit comme ça, lorsqu'on dit que quelque chose qui était incomplet, ensuite il devient complet. Comme la lune, qui a nos yeux, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est un horloge qui nous montre la vie. Donc, la lune, elle n'est pas pleine, ça veut dire que la joie n'est pas pleine, ça veut dire que beaucoup de choses ne sont pas pleines. Mais ensuite, lorsqu'on arrive au 15e mois, c'est là où la lune est pleine, donc ça nous montre que le système est plein, ça veut dire que la joie est pleine, etc. Ça, c'est vrai lorsque ça agit d'un mois comme le mois de Tishri, où c'est un bon mois. Ce qui se passe dans ces mois, c'est des choses positives. Lorsqu'on arrive au mois d'Av, qu'il y a des choses qui ne sont pas positives, comme la destruction des temples, alors qu'est-ce que c'est la plénitude? La plénitude, est-ce que c'est positif? Alors, dans le Chassidut, on explique que finalement, toute chose est pour le bien. On a du mal à le comprendre, on a du mal à l'accepter, mais dans l'idée, toutes choses sont pour le bien. Seulement qu'il y a le bien visible, il y a le bien qu'on ne comprend pas, c'est invisible, on va le comprendre peut-être un jour. Maintenant, puisque c'est comme ça, alors lorsque le mois est possible, est positif, lorsqu'on arrive en 15 du mois, alors à ce moment-là, il est très positif. Lorsque le mois il est négatif, plutôt à nos compréhensions, selon ce qu'on comprend. Alors, lorsqu'on arrive en 15 du mois, alors c'est les faces positives du mois qui se révèlent. Ça veut dire que si, par exemple, on va prendre notre mois, le 9 av, qu'il était plutôt porteur de choses qui sont plutôt négatives, mais dans le fond, il est plutôt positive, seulement que visiblement il est négatif, puisque c'est ça l'idée des mois d'Av. Quelque chose de positif, mais très très caché, mais lorsqu'on arrive en 15 du mois d'Av, là, ça révèle la profondeur du mois d'Av, donc que la profondeur du mal, c'est quelque chose de bien. Donc alors, à ce moment-là, c'est pour ça que lorsqu'on a fêté le 15 d'Av, on a fêté d'une façon extraordinaire, et même c'était des fêtes beaucoup plus importantes que celles de Yom Kippour, les autres fêtes, parce que les autres fêtes, c'était le summum de positives. Ici, on arrive à voir et à changer les négatifs vers les positifs, donc la joie est beaucoup plus grande que lorsque de toute façon on est dans les positifs. Donc ça, c'est l'explication de la chassidut. Maintenant, on va revenir un petit peu au niveau psychologique, au niveau personnel. Chacun, comme on a parlé au début de cette émission, chacun, il a un aspect visible, un aspect profond et un aspect beaucoup plus profond. Et normalement, pour trouver l'aspect visible, c'est un aspect qui arrive naturellement, par la naissance, par l'éducation, mais par d'autres choses. L'aspect plus profond, normalement, il arrive par le travail. Ça veut dire qu'on a des capacités, mais il faut savoir révéler ces capacités. Il y a, c'est vrai, des personnes que leurs capacités se révèlent d'une façon facile, mais il y a des personnes où ils doivent travailler, et parfois travailler dur, pour révéler leur profondeur, leur volonté profonde, leur désir profond, leur qualité profonde. Parfois, il faut travailler peu pour révéler, et parfois, il faut travailler dur pour révéler. Mais lorsqu'on révèle la profondeur, c'est le moment le plus joyeux, le moment le plus fort chez l'homme. C'est pour ça qu'il y a souvent les problèmes psychologiques chez l'homme, c'est la différence entre son désir profond et ce qu'il fait vraiment. On est déçu, on aimerait bien faire telle et telle chose, mais on n'arrive pas, donc on est très déçu. Parce qu'on a un désir profond, mais d'une autre part, on est concret. Et puisqu'il y a cette différence entre le concret et le désir, donc on est très déçu. Si on arrive à développer la profondeur et on arrive à le faire, finalement, il n'y a pas plus grande je vois que ces mêmes moments de pouvoir révéler la profondeur, mais les révéler à l'extérieur, vers le niveau le plus bas, vers l'acte le plus simple. Et chacun sait que quand il fait d'effort, après l'effort, on est très souvent très joyeux. Parce que l'effort révèle quelque chose de très profond à l'homme, et il le révèle vers le niveau le plus bas, l'acte, les choses les plus bas. Et c'est ça. C'est ça la vraie joie, c'est ça la vraie joie, c'est ça la vraie construction. Quand on arrive à lier les parties profondes avec les parties superficielles. La destruction, c'est quelque chose, effectivement, lorsqu'on n'arrive pas à révéler la profondeur, il y a un écart à tel point que ça crée une destruction chez chaque personne, mais d'une façon générale, comme on a parlé tout à l'heure de destruction des temples, c'est parce qu'il y avait un écart entre les temples, ceux qui représentent les temples, et les personnes et les peuples. Et par contre, la construction, c'est quoi? C'est lorsqu'on arrive, parce que de toute façon, on n'est pas comme des animaux. Les animaux, ils n'ont pas vraiment un aspect profond, ils sont contents avec ce qu'ils ont. Ils ont besoin de manger, en fait, mais ils ont les choses basiques et ils ne cherchent pas à révéler leur profondeur, il me semble. Mais en tout cas, il n'y a pas comme chez l'homme. L'homme, il a une envie profonde que parfois il le cherche, il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il a quelque chose de profond qui lui demande, qui lui pousse vers quelque chose. Et jusqu'à le jour où il ne va pas pouvoir toucher à la profondeur, il ne va pas être content même par les choses simples qu'il fait. Donc alors c'est ça un petit peu la différence entre construction et destruction. Et puisque le but de la destruction c'est la construction, et puisque la destruction elle est là parce qu'on n'arrive pas à lier entre profond et superficiel, et donc le but de la construction que c'est l'homme là où il avait la destruction qu'il fasse d'effort, et qu'à ce moment-là, il va trouver la profondeur, il va pouvoir développer et sortir la profondeur vers l'extérieur. Donc alors, ça c'est un petit peu l'explication entre le rapport entre les nefav qui représentent la destruction, mais vu par le judaïsme, c'est parce qu'il manque de travail, il manque de travail humain, et ce que représente le Kanzav, qui représente le contraire, la construction. D'ailleurs, on n'a pas amené les autres raisons du Talmud, pourquoi on fait le Kanzav, mais on est toujours dans le même esprit, positif après le négatif. Alors, à ce moment-là, si on arrivait à faire le lien entre la profondeur et l'extérieur, ça c'est une valeur, ça c'est une construction éternelle, quelque chose de solide. Parce que si ce qui n'est pas solide, c'est lorsqu'il y a d'écart, mais si on arrive à effacer l'écart, en tout cas que les profondeurs réagissent dans l'extérieur, dans le superficiel, ou je ne sais pas quel mot il faut employer, alors à ce moment-là, c'est quelque chose de fort, parce que l'extérieur et l'intérieur sont liés. Ça, c'est un petit peu aussi l'idée des mariages, que, même si ce n'est pas marqué clairement, mais le jour de 15 ans qui est lié avec tel et tel jour, aussi c'est lié avec les notions de mariage, mais le fait qu'on l'a fêté par le mariage, c'est parce que on trouve la même idée. Dans le judaïsme, en quelques mots juste, dans le judaïsme, dans l'esprit humain jusqu'à là aussi, le mariage, on sait que le mariage, on a tous la personne qu'on est lié avec lui. Donc ça c'est dans l'esprit ancien, mais c'est dans l'esprit qui reste toujours. On a nos femmes, on a nos hommes, ça veut dire c'est pas quelque chose que normalement il faut vivre avec. Le but c'est vivre avec amour, avec joie. Alors c'est vrai que d'une part il y a le couple qui correspond l'un à l'autre, même si ils sont différents de toute façon. En même temps ils correspondent. Parce que la personne, telle personne, elle correspond à telle personne, mais pas à une autre personne. Même si que dans le couple même, ils ne sont pas pareils. Ils sont très différents. Déjà, l'homme et la femme, c'est très différent. Mais dans les différences, ça crée un couple. Et on dit souvent que quelqu'un qui est marié, il doit fournir d'efforts. Parce que le fait même qu'il est marié avec quelqu'un d'autre, donc c'est une opposition à... Ça lui pousse à faire d'efforts pour des différentes choses, parce que lorsqu'il vit seul, il fait ce qu'il a envie de faire. Et il a pas d'opposition parfois, donc il crée pas d'efforts. Le fait de créer d'efforts, c'est l'occasion de révéler sa profondeur. Et lorsqu'il révèle sa profondeur, il devient quelqu'un d'entier. Parce que s'il fait ce qui est facile, ce qui passe facilement, il n'y a personne qui se met à contre lui. Alors à ce moment-là, il n'arrive pas à toucher sa profondeur, sauf s'il arrive quelque chose, une épreuve, qu'il est obligé de révéler sa profondeur. Le fait de se marier avec quelqu'un d'autre, que cette personne, d'une part, c'est son couple, mais d'une autre part, c'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir développer le couple. Il faut savoir faire le nécessaire, que chacun fasse un effort par rapport à ce qu'il doit faire. Et à ce moment-là, on crée, on redéveloppe. Ça nous oblige à développer pas mal de nos profondeurs, ce qu'on n'est même pas au courant que ça existe. Et là, on devient quelqu'un d'entier. Et donc, alors, si on résume un petit peu ce qu'on vient de dire, il y a la destruction. Là, on parle de la destruction des temples, mais ça peut être une destruction personnelle. Le fait même qu'on est écart avec nous-mêmes, on est l'écart avec notre profondeur. La construction, c'est, on parle ici de la construction des temples de Jérusalem, mais en même temps, on parle de la construction personnelle, parce que tout est lié. La construction personnelle, ça veut dire que pouvoir sentir notre profondeur et développer et sortir à l'extérieur notre profondeur. Donc, alors, à ce moment-là, l'homme, il est parfait. La perfection n'existait pas, mais en tout cas, il avance vers la perfection, et parce qu'il y a l'aspect extérieur, l'aspect intérieur, il arrive à développer, à ce moment-là, il se sent bien. Donc ça, c'est une construction. Mais la construction, elle est liée vraiment avec le pouvoir toucher notre profondeur. Donc alors, c'est pour ça que les Nefav représentent la destruction. Quelques jours après, donc 6 jours après, les 15 avres représentent la construction qui vient tout de suite après les Nefav. Parce que le but, c'est pas la destruction. Le but, c'est que l'homme, il cherche à l'intérieur de lui et il va construire. Donc, une fois qu'il comprend, tout de suite après, il construit. Et donc, c'est pour ça que c'était des jours de mariage, parce que les jours de mariage, c'est un jour, un vrai jour de construction. Car l'homme, il comprend, le fait même de vivre en couple, ça lui pousse à faire des efforts. Et donc, chercher dans son intérieur, et ne pas rester dans les conformes, à ne pas à rien faire. Et à ce moment, si on vit bien, si on vit comme il faut, alors à ce moment-là, c'est une notion de construction. En tout cas, ça, c'est quelques mots par rapport à ce que c'est. Cette date qu'on vit maintenant, et puisqu'on est aussi dans la paracha de Ekev, Ekev, ça veut dire, la paracha, elle commence par « Si vous allez écouter, Moshe, il parle au peuple d'Israël, il dit « Si vous allez écouter, alors Hachem, Dieu, il va vous faire tout ce qu'il vous a promis. » Mais il y a une autre version de mon Ekev, ça veut dire « talon », ça veut dire que ça veut dire que la profondeur arrive jusqu'à le talon. Ça, c'est quelque chose de complet. Ça, c'est quelqu'un de parfait. Quelqu'un qui arrive à lier ciel et terre, c'est lui qui arrive à lier la profondeur, ce qu'on appelle chez nous le ciel, ça veut dire les idées très profondes, avec l'acte le plus banal, le plus bas, qui est lié avec les ekev, avec les talons du pied. Et donc ça, c'est quelque chose de complet. Il est marqué qu'il y aura un moment même si on passe vers le haut et parfois vers le bas, il y a des hauts et des bas chez chacun. Parfois on arrive, parfois on n'arrive pas, parfois il y a des destructions, ensuite il y a des constructions. Mais finalement, la Torah, notre paracha, selon cette explication, elle nous annonce que finalement on va y arriver, on va pouvoir lier notre profondeur, notre ciel avec notre propre terre. Et ça, c'est les notions messianique qui va être qu'on va le voir très prochainement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.